dim dim ta ta dim dim ta ta dim
Les divagations végétales, l'émission potagère de Radio Bricole. Bravo râteau, à vos serfouettes. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro des divagations végétales. Alors pour commencer aujourd'hui, je vous propose un petit jeu facile. Un petit jeu qui va permettre à tout le monde de gagner, ce qui est quand même beaucoup plus chouette que de jouer à un jeu où il y en a un seul qui gagne et qui roule des mécaniques et des gros biscottos en disant « Je suis le meilleur, je vous ai tous ratatiné ». Alors, êtes-vous bien prêts? Quel est le point commun entre toutes ces plantes? L'arachide, la cacahuète, le cacao, le tabac, la papaye, l'anacardier. L'anacardier, c'est ce qui donne la noix de cajou. Vous savez, la noix de cajou salée pour l'apéro, ça c'est super bon. La tomate, le manioc, la banane, la coca, l'ananas, le coton, les piments et les poivrons, entre autres. Je vous laisse réfléchir. Ting, 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 pong, pong, pong. Eh bien, la réponse est... Toutes ces plantes sont originaires d'Amazonie. Donc, aujourd'hui, eh bien, nous allons faire un petit voyage en Amazonie. Et pour ça, nous allons nous diriger vers la seconde plus grande région de France, qui est aussi le plus grand département, la Guyane. La Guyane est une région de France au climat équatorial humide, c'est-à-dire qu'il y pleut tant et plus. 2816 mm de précipitations en moyenne par an à Cayenne. Donc il y a une saison des pluies qui débute en décembre et qui se termine en juillet, avec un pic au mois de mai. Et puis une saison plus sèche, hein, pour parler vraiment d'une saison sèche, qui a lieu d'août à novembre. Bon, il pleut quand même pendant la saison sèche, mais nettement moins. Au moment le plus sec, il tombe entre 40 à 50 mm de pluie. Que vous voyez, par rapport aux 2816 mm, c'est pas grand-chose. Les humains ont occupé l'Amazonie, en gros, il y a entre 33 à 31 000 ans, selon les sources les plus récentes. Les humains s'installent en Amazonie et ils mettent en culture ce milieu. L'Amazonie, c'est d'abord la vaste plaine qui est au sud du fleuve, et au nord, ce qu'il est convenu, ce que certains appellent l'île d'Amazonie, c'est-à-dire la partie du bouclier archéen située entre l'Orénoque au nord, le Rio Negro à l'ouest, au sud l'Amazone et à l'est ben, la mer. Donc ils arrivent et ils sont confrontés à une forêt naturelle. Je préfère cette appellation à celle de forêt primaire, qui sous-entend un âge d'or de la nature. Or, bah, depuis l'apparition de la vie sur la planète, il n'y a pas d'âge d'or. Hein. Les différents organismes ont façonné l'environnement. À commencer par les micro-organismes anaérobies qui ont produit l'oxygène que nous respirons aujourd'hui, la grande oxydation. Et... En faveur de cette grande oxydation, Après, les différents organismes, en particulier les végétaux qui se sont déposés tout d'abord sur les bords des plans d'eau, et puis qui peu à peu se sont installés sur la Terre, qui devait ressembler à l'époque, grosso modo, aux belles images qu'on a de Mars en ce moment, c'est-à-dire un désert minéral. Et peu à peu, ces plantes ont formé ce que nous connaissons aujourd'hui, cette épaisse couche de terre, d'humus, qui est le résultat de millions et millions d'années d'occupation de la terre par les plantes. Grâce à ces plantes, d'ailleurs, nous pouvons aujourd'hui cultiver la carotte et l'oignon, et regarder de jolies forêts et voir nos enfants gambader dans les prairies. L'état de nature est essentiellement une suite d'interactions entre différents groupes vivants, ce que Philippe Descola appelle les collectifs. Donc il y a tout un tas de collectifs qui entrent en action les uns avec les autres et façonnent le milieu et créent un paysage qui est le paysage que nous connaissons aujourd'hui. Mais il y a fort à parier que les dinosaures, à leur époque, ils ont façonné le paysage en broutant telle plante et en faisant disparaître peut-être telle plante. Songeant quand même qu'un brontosaure de plusieurs tonnes avec des pattes énormes, quand il se promène, il écrase un petit peu tout sur son passage. Et derrière, d'autres plantes apparaissent, conquièrent ce milieu piétiné. Bref, on peut même imaginer que la naissance des angiospermes a été rendue possible par l'exploitation du milieu par différents animaux. Pourquoi pas ? Darwin pensait que l'apparition des angiospermes était un mystère insondable. Peut-être qu'il y a une voie pour résoudre ce mystère dans ce sens. Les humains sont confrontés donc à ce climat humide et à cette forêt étendue, et donc à des plaines inondables. Songez que l'eau peut monter en période de crue de plusieurs mètres par endroit, même de 12 à 15 mètres. C'est pas de la rigolade. Donc il a fallu adapter l'agriculture à ces contraintes. En zone peu inondable, on fait de la culture sur brûlis, On coupe les arbres, on les brûle, et puis la cendre et le charbon de bois permettent de fertiliser le sol. Alors, tiens, petite incise. Cette forêt immense, ce vert à l'infini, cache quand même des sols extrêmement pauvres. D'abord très acides, et puis systématiquement lavés par les pluies. Comme il pleut énormément, vous pensez bien que tout part à la rivière à grande vitesse. Donc, c'est des sols très pauvres. Ce qui prouve, s'il fallait le prouver en plus, l'inanité de la déforestation. Parce que on a déjà vu, quand on a déforesté pour faire paître des bœufs, on s'est aperçu que les bœufs ils restaient assez maigres. Les vaches grossissaient pas, parce que l'herbe était une herbe maigre. parce que il n'y a pas, comme chez nous, une épaisse couche d'humus qui fait une herbe riche et grasse. Et il en va de même pour le soja, vous voyez ces immenses étendues déforestées, avec des moissonneuses batteuses qui roulent à 5-10 de front et qui ramassent du soja. Bah, si le soja n'était pas transgénique et si on n'avait pas ajouté des kilos et des kilos d'amendements et d'intrants à l'hectare, il ne pousserait pas grand-chose, car les sols sont très rapidement lessivés et se latérisent, c'est-à-dire qu'ils se forment une croûte imperméable assez rapidement, ça fait des sols stériles. Voilà. Donc revenons à notre zone inondable. Donc en nos zones inondables, il n'y a pas 36 solutions. Soit on peut utiliser le système de Varzea, qui est une culture de bord de fleuve, et en tout cas d'endroits où il y a des crues. Puisque quand la crue survient, l'eau monte et elle dépose des limons. Et quand elle redescend, c'est comme toutes les crues, quand elle redescend, il y a de la boue partout. Et sur cette boue, on se précipite et on vient planter ses légumes et ses végétaux, et qu'on se dépêche de cultiver jusqu'à la prochaine crue. Alors, faut être rapide, faut avoir bien observé le régime des crues, et malheureusement, on n'est jamais à l'abri d'une crue exceptionnelle, d'une crue soudaine au milieu de la saison sèche. D'un seul coup, il a plu un peu plus haut, et hop, ça monte, hop, ça vous emmène toute votre récolte. Et là, on n'est pas très content, c'est pas terrible. Donc, deux autres solutions. Le polder, qui est la solution qui a été adoptée par les Européens, en particulier les Hollandais. On fait des digues, on bloque la mer, on empêche l'eau d'avancer, on bloque, on arrête, mais tout le monde le sait, personne ne peut arrêter l'eau. Quand l'eau veut aller quelque part, elle y va. Donc, il se passe ce qui s'est passé il y a quelques siècles en Hollande. Un jour de grand vent, de grandes crues et de grandes marées, la digue cède et hop, le pays est englouti et les gens meurent. Donc ça, c'est pas terrible. Reste la dernière solution qui est le billon. Au lieu de bloquer l'eau, on se surélève, on se met au-dessus de l'eau. Alors, on peut penser à l'Amazone, toujours, avec ces fameuses îles flottantes qui sont des enchevêtrements de végétaux qui ont une épaisseur assez énorme et sur lesquels on peut faire paître des animaux et on peut cultiver parce que c'est des espèces de matelas flottants et très 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 épais qui se bloquent dans un endroit du fleuve, dans un bras du fleuve, et bien là, on met ça en culture et ça marche très bien. Le billon, c'est un peu le même système. Vous avez une plaine inondable, vous montez des tertres et vous cultivez dessus. Ce système, vous le trouverez par exemple à Amiens, avec ce qui s'appelle les ortillonnages, qui sont exactement des petites buttes qu'on a élevées sur un marais et sur lesquelles les gens cultivent. Ils cultivent toujours leur jardin d'ailleurs, c'est très très joli, ça vaut vraiment le coup d'aller voir, c'est absolument charmant. Il y a des petits canaux où on peut se promener avec sa barque et puis des petits ponts, enfin bref, tout ça est parfaitement délicieux. Alors ces buttes, donc ces billons, on les rencontre en très grand nombre en Guyane. Elles sont de taille très variée, quelquefois elles font à quelques mètres carrés, et puis d'autres fois elles sont spectaculaires et très très grandes, et elles abritaient parfois des villages entiers, parfois même plusieurs villages, avec des champs, des cimetières, des places, etc. Donc c'était vraiment des constructions imposantes.
Да, 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 да
Le tertre, outre qu'il protège contre la montée des eaux, a aussi un intérêt agricole, parce qu'il permet en effet de créer une couche de limon fertile dans un milieu plutôt pauvre, comme je vous l'ai déjà dit, et donc de pratiquer une agriculture florissante. Les champs surélevés, ils sont bâtis à l'aide de sortes de pelles de bois, et on ramasse le limon au fond du marais, ça permet de curer le canal, et puis on prend ce limon et on le met sur la butte, on en fait une butte qui peut dépasser de 30-40 cm jusqu'à quelques mètres au-dessus du niveau de l'eau. En général, on se débrouille pour être au-dessus du niveau des hautes eaux. Ça veut dire donc une organisation, ça veut dire une organisation sociale, ça veut dire aussi un nombre d'habitants, une démographie assez importante. Hein ? Les Européens, quand ils sont arrivés dans le bassin amazonien, ont trouvé parfois des villages abandonnés, des densités de population très basses. Mais il faut penser qu'avant leur arrivée, les microbes, le choc microbien, avait détruit un grand nombre de populations, avait tué un grand nombre de populations. Pensez qu'aujourd'hui, encore, les populations qui n'ont pas été au contact avec les Blancs, et il en reste encore quelques-unes, eh bien quand les Blancs viennent au contact, ces populations sont amenées à disparaître dans les 10 ans. Alors, d'abord par choc microbien, et puis ensuite, bien sûr, par choc culturel. Puisque, évidemment, la première chose que font les Blancs, c'est de leur fabriquer des villages, de leur mettre une église, et de leur fourguer des pasteurs évangélistes protestants, américains, qui viennent leur prêcher la bonne parole. On est sûr qu'avec ça, vous pouvez exterminer n'importe quelle population en un temps record. C'est ce qui se passe aussi en Guyane, actuellement, l'acculturation est le deuxième temps de la destruction des populations autochtones. Donc ce travail collectif permettait de pratiquer des cultures très variées et particulièrement riches, puisque l'environnement lacustre permet d'avoir des cultures qui ont toujours de l'eau. Et puis en plus, le fait qu'on a un peu aménagé autour des billons, bah, ça permet aussi d'avoir des réserves de poissons, ce qui permet d'avoir une nourriture variée. Alors bien sûr, on parle bien de billons dans une zone inondable. Donc il ne faut pas confondre les billons avec la culture sur butte, qui est l'alpha et l'oméga de la mode potagère du moment, hein, la permaculture. Ah, on fait des buttes, on fait des buttes. Bah, vous voyez bien, les Indiens, ils faisaient des buttes, on fait des buttes. Donc on est dans la vérité et dans l'essence des choses. Pas du tout. Là, on est bien sur des environnements humides, lacustres.
Dança, dança, mariquinho, o povo apreciar. Essa boa mazurquinha que pra você vou cantar.
Outra, meu bem, a canfona tocar.
Pipirifom, pipirifom, toca no baixo desse acordeon. Pipirifom, pipirifom, que mazurquinha de compasso bom. Na sanfona, a turma se levanta e pede uma mazurca. Quando bato a mão no fole, sei que a turma toda vai ficar maluca. Todo mundo se admira do fraseado que a sanfona diz. Quando acaba a conta, dança o povo admirado, ainda pede bis.
Ei! Canta, canta, mariquinha, para o povo apreciar. Essa boa mazurquinha que pra você vou cantar. Toca, meu bem, a sanfona. Que maluquinha de compasso.
pego na sanfona, turma se levanta e pede uma mazurca. Quando bato a mão no fole, sei que a turma toda vai ficar maluca. Todo mundo se admira, fraseado que a sanfona diz. Quando acaba a contradança, o povo é admirado, ainda perde tudo.
Oi! Canta, canta, mariquinha, para o povo apreciar. Canta, tua mariquinha, que pra você vou cantar. Outra mil venha, já vou adorar.
Infirifon, infirifon, toca no baixo desse acordeão. Infirifon, infirifon, que mazurquinha de compasso bom.
Posons-nous maintenant la question de qu'est-ce qui était cultivé sur ces billons. Alors c'est un peu compliqué, parce que, comme on sait, ces environnements sont des environnements qui dégradent assez vite les restes végétaux, mais les scientifiques et les archéologues ne sont pas à court de bonnes idées et d'idées ingénieuses pour savoir ce qui se passait et ce qui se cultivait. Donc je vous passe les techniques d'investigation qui ont permis de dresser une espèce de petite liste, un petit aperçu de ce qui se cultivait sans doute. Ces techniques ont révélé que la patate douce, le maïs, le chou caraïbe, la banane, le taro et la canne à sucre étaient des plantes cultivées habituellement sur ces billons. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi pas le manioc ? Puisque aujourd'hui, on sait que le manioc, c'est la grande plante de l'Amazonie. Eh bien, le manioc se prêterait éventuellement à la culture sur billon. Il suffit d'enterrer le tubercule pas trop profond, les racines vont aller chercher l'eau. Mais il semblerait cependant que ce soit le maïs qui ait été la plante de base, la plante cultivée. On trouve aussi du manioc, même s'il ne représente pas la plante principale, qui était le maïs. En tout cas, ce qui apparaît, c'est une grande diversité de plantes cultivées, ce qui est conforme à l'ensemble amazonien, où les peuples cultivaient régulièrement jusqu'à des centaines de plantes différentes. On peut mettre ça en regard avec nos cultures potagères, qui comprennent quelques dizaines de variétés, alors que là-bas, on cultive essentiellement à peu près tout et n'importe quoi. C'est ce qui fait dire, en particulier, que l'Amazonie est une forêt domestiquée. Donc, les billons ont disparu avec la colonisation du fait de l'effondrement démographique, je vous en ai parlé tout à l'heure, suite au choc microbien, et puis à l'abandon par les Amérindiens qui ont été chassés de leurs terres par les colons. Donc les billons partent un peu, disparaissent, et on n'en retrouve plus que la trace. Les gens ne savaient pas très bien ce que c'était. Au début, on pensait que c'était des alignements de termitières, puisqu'on voyait effectivement sur de grandes étendues des petites buttes comme ça alignées. On se disait, mais qu'est-ce que c'est que ça, les fourmilières, des termitières? Et finalement, les archéologues ont mis à jour que c'était cette technique culturelle. Voilà. Eh bien, écoutez, nous avons fait un petit tour très très sommaire, mais c'était un aperçu. Je ne saurais que trop vous recommander la lecture de Stéphane Rostin, qui m'a permis de faire cette émission, en particulier son livre « Les 12 travaux de l'Amazonie », qui est un livre très facile à lire et très très intéressant. Et puis aussi « Amazonie, un jardin sauvage ou une forêt domestiquée, essai d'écologie historique ». Tout ça, c'est chez Actes Sud. Je vous conseille vivement cette lecture. Je vous souhaite une bonne journée et un prochain numéro.